Voilà, donc c'est ce soir, comme le savent certainement nos chers auditeurs, c'est un cours de liturgie, c'est la suite de ce que j'ai commencé, et en même temps, comme vous le savez, je ne tiens pas à ce qu'il y ait une suite rigoureuse d'une séance à l'autre, comme les séances sont très éloignées, sont très distantes, je préfère en fait que chaque séance ait son identité et son autonomie. Mais en même temps, il y a tout de même une logique dans tout cela. Vous avez certainement remarqué, vous êtes tous des gens extrêmement intelligents et vigilants, donc vous avez certainement vu qu'il y a une suite. C'est que depuis le début de cette série sur la liturgie, j'essaye en fait de prendre des éclairages différents pour approcher du mystère liturgique. Et c'est une méthode approximative, au bon sens du mot, une méthode d'approche, plutôt qu'une méthode de définition. Donc je ne reviendrai pas sur les différents chapitres que j'ai présentés jusqu'à présent, mais voilà, je tourne un petit peu autour du sujet, et comme un chasseur ou un photographe qui cherche à saisir ou à photographier un animal rare et très sauvage et très, très, très peureux, très craintif, très fragile, et qui donc fait des tours comme ça pour s'approcher. Et même comme faisait le prophète Moïse, le grand Moïse qu'on cite tout le temps, en fait c'est très intéressant. Quand il a vu ce buisson qui brûlait sans se consumer dans le désert, si je me rappelle bien, il a tourné aussi un petit peu autour, il s'est approché, comme ça ne pouvant pas venir directement vers le sujet. Donc cette méthode-là, donc plutôt la mienne. Bon, alors ce soir j'ai choisi de présenter, toujours comme d'habitude très très succinctement et d'une manière très peu professionnelle et très en tout cas très incomplète, et de présenter un peu quand même ce qui peut constituer la relation entre le culte chrétien, notre vie liturgique en général, et les racines juives, les racines bibliques, mais juives, et de notre façon de prier et de célébrer. Je me rends compte, en lisant les travaux écrits par les liturgistes, qu'un certain nombre d'entre eux ne se posent pas cette question-là. Je ne crois pas qu'ils ne s'y intéressent pas, mais ils ne la posent pas, en tout cas ils ne la posent pas dans leurs écrits, comme si ça allait de soi. Et même les auteurs anciens, comme par exemple, Saint Maxime le Confesseur, Saint Germain de Paris, Saint Germain de Constantinople, Nicolas Cabasilas ensuite, et les différents écrivains, les différents pères de l'Église qui ont commenté la liturgie, à ma connaissance, qui est limitée, je reconnais, mais à ma connaissance, n'aborde pas cette question de la relation entre la liturgie chrétienne et la liturgie juive. En fait, presque tous partent des écrits de Denis l'Aréopagite, Saint Denis le Mystique, comme nous l'appelons, comme s'il n'y avait rien d'autre ou rien eu avant. L'intérêt pour la vie liturgique de la première communauté chrétienne, c'est un intérêt qui s'est manifesté assez récemment, en fait. Je pense que c'est au cours du 19e siècle que les écrivains qui sont intéressés à la liturgie, au culte chrétien, ont commencé à se poser la question de savoir comment fonctionnaient liturgiquement les toutes premières communautés chrétiennes. Donc, disons, cette préoccupation pour l'origine du culte chrétien, j'ai l'impression que c'est quand même une préoccupation relativement récente. Auparavant, on se posait pas certaines questions. Donc je crois et ça c'est beaucoup lié aussi au XXe siècle, à ce qu'on appelle toujours, c'est-à-dire le mouvement liturgique, dont peut-être je pourrais parler une fois, de ce qu'on a appelé le mouvement liturgique, c'est une vaste démarche de réflexion sur le culte chrétien, la liturgie, champ de réflexion qui a été mené en grande partie par des bénédictins, mais également des jésuites, des oratoriens, et qui a abouti, du côté catholique romain, à la constitution de Vatican II sur la liturgie, mais du côté orthodoxe, ça aboutit également, parce que nous, les orthodoxes, avons participé de près ou de loin à cette réflexion, et je pense qu'elle a, ce mouvement liturgique a porté des fruits assez importants dans le renouvellement de la théologie liturgique chez les orthodoxes. Donc c'est dans le cadre de ce mouvement liturgique qu'effectivement s'est posé beaucoup des questions de la genèse de la vie liturgique chrétienne. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ou plutôt ça qu'autre chose, etc. Donc moi aussi, si vous voulez, je m'intéresse à cela, et parce que je pense également, alors c'est un autre point qui vient s'ajouter, c'est que nous ne pouvons pas, ça je pense, ça c'est peut-être une opinion personnelle, bon, je pense que nous ne pouvons pas célébrer la divine liturgie et les différents sacrements, les différents offices de l'Église, donc je parle de l'Église orthodoxe en particulier, évidemment. Je pense que nous ne pouvons pas célébrer cela en nous déconnectant intérieurement de la source juive. Il faut qu'il y ait quelque part dans notre conscience, dans notre mémoire, le sentiment, la conscience même très fine, que ce qu'on est en train de faire, c'est ce que le peuple de Dieu a toujours fait. Vous voyez, c'est parce qu'il y a eu, s'il y a une autre, un autre système d'idées chez les chrétiens, chez certains pères de l'Église, vous le reconnaître, un certain système consiste à dire, au fond, il y a eu le judaïsme, et puis, après ça, arrive le christianisme, et donc le judaïsme, c'est terminé pour lui, on ferme ce chapitre-là, et l'Église remplace ou se substitue, ça c'est le grand problème, se substitue à l'Israël ancien, et donc au fond on n'en parle plus, on ne s'y intéresse pas. Alors ça, cette doctrine de la substitution qui s'est beaucoup répandue chez les chrétiens, effectivement fait que les chrétiens ne s'intéressent pas ou ne s'intéressent plus, ou ne sont plus intéressés véritablement aux sources juives. Et non seulement ils ne sont pas intéressés, mais quand ils en parlaient, on en parlait de manière négative. Il y a tout un discours donc il faut prendre la responsabilité, parce que c'est un discours de certains chrétiens, un discours négatif à l'égard de tout ce qui est d'origine juive, et qui effectivement rend ces chrétiens-là incapables de profiter de la source elle-même. Si on dit que la source n'existe pas ou qu'elle n'est pas intéressante, on ne va pas s'y abreuver. Et puis aussi, il y a l'autre courant, encore un autre courant d'idée, qui est qu'on s'intéresse, si vous voulez, surtout en Europe occidentale, au fait que c'est au fond la pensée grecque, c'est le fonctionnement de la civilisation grecque, c'est pour la référence à la Grèce antique, surtout depuis la Renaissance, qui perturbe aussi beaucoup notre relation avec le chrétien, avec le judaïsme. Il y a une sorte de préjugé favorable à l'égard de l'héritage de la Grèce antique, c'est caractéristique de l'idéologie de la Renaissance, mais ce préjugé favorable fait qu'on s'est intéressé encore moins et de moins en moins à l'héritage sémitique. Et ça, donc, c'est de ça qu'on sort à notre époque. Donc moi, personnellement, je pense que c'est en découvrant, en redécouvrant les sources juives qui ne sont pas si loin, qu'on va arriver à célébrer bien, célébrer de manière intelligente, célébrer de manière consciente aussi. Voilà, donc c'est ce que j'avais prévu de dire, Donc ne pas oublier que lorsqu'il est baptisé prie, et notamment lorsqu'il prie liturgiquement, c'est-à-dire sous une forme communautaire, c'est-à-dire pas seulement quand il prie chez eux dans leur chambre, si vous voulez, mais quand il prie ensemble dans des réunions d'église, et à plus forte raison sous la forme de l'assemblée qui célèbre l'Eucharistie, il prie avec tous les anciens. C'est-à-dire que nous sommes reliés aux premiers qui ont offert les sacrifices. C'est le chapitre 4 de la Genèse, si j'ai bien vu, si je ne me trompe pas, le premier sacrifice qui a été offert, c'est par Abel. Et Abel qui a offert les sacrifices, Abel et Caïn, les deux offraient les sacrifices, et comme vous savez, ils ont été en compétition, ça ne s'est pas très bien passé. Et donc c'est la trace qu'on a d'une offrande faite à Dieu, on offre les créatures, voilà, l'être humain qui offre des créatures à Dieu, c'est une activité sacerdotale chez l'être humain. Et ça, c'est vrai qu'on voit ça après la chute. La vie au paradis ne montre pas ne montre pas quelque chose de tel. C'est assez curieux d'ailleurs que on voit que Dieu confie à l'être humain les créatures, qu'il leur demande de les nommer, qu'il demande de les appeler par leur nom, etc. Mais on ne voit pas l'être humain offrir à Dieu les créatures qu'il lui a confiées. Et c'est dire on voit l'être humain commencer à s'adresser à Dieu. Et on voit l'apparition du dialogue divino-humain à partir de la chute. J'ai relu aujourd'hui les premiers chapitres de la Genèse. Et c'est intéressant de voir que jusqu'à la chute, il n'y a que Dieu qui parle. Et que c'est qu'à partir de la chute qu'un dialogue assez maladroit d'ailleurs et assez difficile se manifeste. Bon, tout ça pour dire que quand nous prions liturgiquement, nous sommes chargés de toute cette mémoire, des priants, des célébrants, de tous les temps. Et là, je ne parle que de l'héritage juif, parce que je me limite à ça ce soir, mais il faut savoir aussi qu'il y a dans l'Église tout l'héritage des nations et des peuples non juifs et qui aussi ont leur tradition de prière qu'on retrouve dans l'Église. Ce serait en fond un autre sujet, c'est-à-dire les apports païens par les apports non juifs dans le culte chrétien. Et d'ailleurs, je voulais dire ça aussi, c'est que d'une certaine façon, font l'histoire biblique, l'histoire sainte, des origines à nous-mêmes, font par excellence l'histoire du culte et de la liturgie. Mais c'est pas que ça quand même. Ah, non, mais enfin, principalement, c'est parce que le peuple juif a été et est toujours un peuple célébrant, un peuple qui invoque le nom de Dieu. Vous savez, juste dans le chapitre 4 de la Genèse, il y a les premières offrandes, le Caïn et Abel, et après ça, au chapitre 4, au verset 26, c'est Enos, le fils de Seth, et on dit de lui qu'il commença à invoquer le nom de Dieu. Bon, donc ça fait partie de notre héritage, et c'est ça qui marque l'histoire du peuple, ce qu'on appelle le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Bon, le terme est un peu général parce que ça comporte en fait des aspects extrêmement complexes. Le peuple d'Israël n'est pas constitué comme ça, disons, mais enfin globalement, si vous voulez, il se constitue, il a une identité de base, et cette identité, c'est le fait que c'est un peuple qui invoque le nom de Dieu. Et ça, c'est vraiment c'est très 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 grand. Alors, à partir de cette introduction, j'ai consulté plusieurs sources, disons, pour alimenter ma réflexion, au fond, parce que c'est la réflexion qui est quand même assez personnelle. Et la première source que j'ai consultée, c'est celle d'un écrivain qui s'appelle Louis Duchesne. Je crois qu'il était évêque, il me semble qu'on dit Monseigneur Duchesne. Enfin, bon, je ne l'ai pas connu personnellement. C'est un monsieur qui a écrit à la fin du 19e siècle. Dont les écrits ont été publiés dans les années 1880-90, et puis réédités. Je l'ai donné en bibliographie, vous trouverez sur le site. Ça a été réédité en 1909, mais j'ai vu sur le livre que j'ai chez moi, en fait, il y avait une première édition plus ancienne. Donc c'est vraiment un écrivain, un liturgiste français de la fin du 19e siècle, et qui a écrit un livre extrêmement intéressant qui s'appelle « Origine », au pluriel, « Origine du culte chrétien, étude sur la liturgie latine avant Charlemagne ». Donc en fait, ça porte principalement sur l'étude de la liturgie occidentale, mais ça n'est pas grave. Beaucoup des observations qu'il fait sont valables pour l'ensemble du patrimoine liturgique chrétien, c'est-à-dire c'est au-delà même du patrimoine byzantin que nous suivons principalement, nous les orthodoxes. Et je pense que beaucoup des données qui sont dans ce livre sont applicables à d'autres cultures religieuses et chrétiennes. Ah bon, donc c'est dans ce livre-là. Alors, dans ce livre-là, le titre est évidemment intéressant, « Origine au pluriel du culte chrétien », bah évidemment, je me suis jeté sur ce livre en cherchant qu'est-ce que j'allais bien pouvoir y trouver pour satisfaire ma préoccupation. Alors, en fait, lui, il donne les bases tout à fait classiques, ce que je pense tout le monde sait d'ailleurs, que je suis là pour rappeler, parce qu'un cours c'est toujours une intervention qui répète des choses que les gens savent en essayant de les présenter d'une manière nouvelle, c'est un autre éclairage, mais enfin, c'est très rare qu'un cours nous apprenne véritablement quelque chose. Il nous présente des données que nous avons déjà. Alors les données que nous avons déjà, que tout le monde a, c'est qu'il y a un rapport étroit entre le judaïsme et le christianisme. C'est quand même pas une information nouvelle, même si elle a besoin d'être redite encore et encore. Et lui, il dit nettement, il dit, l'Église chrétienne est sortie du judaïsme. Ça, c'est bien, mais il faut quand même le dire. Il faut quand même le dire. Il y a des chrétiens qui ignorent cela, ou il n'y a pas si longtemps, la génération antérieure à la mienne, j'ai connu des Français très croyants, très bons chrétiens par ailleurs, mais qui niaient ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est lié aussi à l'antisémitisme très très fort en France, qui est culturel chez nous, et qui consiste finalement à bloquer tout ce qui pourrait être dit de positif. Donc on est chrétien, mais ça n'a aucun rapport avec le judaïsme. À la limite, le Christ n'était pas juif, la mère de Dieu n'était pas juive. Enfin, ouais, bon. On finit par entendre des propos extraordinaires. Je caricature à peine. Donc le fait de dire l'Église chrétienne est sortie du judaïsme, c'est pas une affirmation idéologique, c'était un fait qui est affirmé par des historiens et qui, alors lui, le père Duchesne, il écrit dans le début de son ouvrage, dans le chapitre 1, le premier chapitre, il écrit le développement, c'est assez intéressant, ça touche pas vraiment au sujet liturgique, si vous voulez, mais ça montre quand même la vie, il écrit le développement des églises chrétiennes à partir des colonies juives de la diaspora. Alors ça aussi, c'est pas extrêmement nouveau, c'est quelque chose que tout le monde sait un petit peu, mais donc c'est assez intéressant parce que ces colonies juives qui se sont développées dans le bassin méditerranéen, parce qu'elles étaient donc dispersées, comme veut dire le terme de diaspora, toutes ces colonies juives se sont développées autour de leur vie culturelle, justement, de leur vie liturgique. Et qu'est-ce que c'était que leur vie liturgique et leur vie culturelle? C'était la synagogue. Donc ça, c'est assez important, donc je vais en reparler tout de suite, ce qu'on appelle le culte synagogal, c'est-à-dire la façon de prier les communautés juives là où elles sont, dans les villes où elles se trouvent. Ça, c'est un élément qui va servir immédiatement aux communautés chrétiennes. Et donc, il décrit assez bien donc, le fonctionnement, le développement de l'Église, la première Église. Je préfère dire la première Église que l'Église primitive, parce que le mot primitif éventuellement un sens un peu péjoratif. On a l'impression qu'on est beaucoup plus intelligent que les autres parce qu'on est venu après eux. Ça, c'est se méfier. Donc la première Église s'est développée, mais enfin finalement dans la foulée des communautés juives existantes dans la diaspora. C'est presque partout, les colonies juives de la dispersion avec leur synagogue ont servi de point d'ancrage, en tout cas au début, aux communautés chrétiennes. Donc ça, c'était assez important. Donc il dit ça, le père Duchesne, donc les apôtres, quand ils arrivaient dans une localité, tout de suite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se mettaient en rapport avec la communauté juive, parce qu'ils étaient juifs eux-mêmes. Ça aussi, peut-être pas oublier que tous les premiers chrétiens étaient des juifs. Et même ceux qu'on appelle des grecs, c'était des juifs hellénisés. Hein, donc les non-juifs, vous savez très bien, c'est grâce surtout à l'apôtre Paul, mais n'ont pas absolument pas constitué la majorité des chrétiens dans toute première génération. Donc ils arrivaient, ils se dirigeaient vers la communauté juive, ils prêchaient à la synagogue, parce qu'on les laissait prêcher, on les laissait interpréter, on ne les empêchait pas de parler, et quand ils prêchaient, évidemment, ils exposaient le sujet de leur mission, c'est-à-dire le Christ est ressuscité, et tout ce qu'on voit, par exemple, dans les discours de l'apôtre Pierre, dans les Actes des Apôtres, les Actes des Apôtres, c'est très intéressant comme ouvrage, parce qu'on voit comment fonctionnaient les premiers chrétiens. Et les grands discours qu'on y trouve, c'est les discours de l'apôtre Pierre et du saint et victorieux martyr Étienne. Donc ces grands discours-là, il est évident que prononcés dans des synagogues, qui était probablement le cas, ils étaient très très vite insupportables pour la communauté juive, parce que ça allait trop loin pour ce qu'ils pouvaient. Alors donc, ce qui se passait, c'est que le plus souvent, les apôtres, ou assimilés, disons, recrutaient un certain nombre de gens, il y avait quand même des conversions, mais le père Duchesne dit qu'en fait, les conversions n'étaient pas massives du tout, hein. C'était quelques, de temps en temps, dans les Actes des Apôtres, on le dit, quand il y a 100 personnes ou 50 personnes qui sont devenues chrétiennes, on le dit, parce que c'est vraiment une bonne pêche. Mais généralement, non, c'était quelques disciples qui se joignaient aux apôtres. Et après ça, donc, en fait, eux, les apôtres et leurs disciples, ils étaient purement et simplement exclus de la synagogue, on dirait excommuniés, enfin, je ne sais pas si ça veut dire la même chose pour ce contexte-là, enfin, donc ils étaient exclus de la synagogue. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là? Mais ils fondaient un nouveau groupe, qu'on appelle Église, justement. Un nouveau groupe, schismatique par rapport à l'ancien, bien entendu, et avec ses réunions à part, son esprit, sa doctrine, ses chefs spirituels spéciaux, et c'est comme ça que s'est fondée la chrétienté locale, si vous voulez. C'est intéressant, c'est de manière très très organique. Elle démarre par l'assemblée juive synagogale, et puis comme ça ne peut pas durer, elle fonde à côté, dans la même ville, elle fonde à côté ce qu'on appelle une église. Et il faut savoir, alors ça c'est Monseigneur Jean Zizioulas qui explique ça, il dit qu'en fait c'est intéressant que les églises ont été, la plupart du temps, des églises domestiques, mais que ça n'avait pas d'importance, on s'occupait pas, parce qu'il n'y avait donc pas de lieu de réunion, la synagogue étant fermée aux chrétiens, où se réunir, bon, et on s'est beaucoup réunis chez les gens, chez les particuliers, mais ça n'a pas d'importance en soi, puisque c'est le terme d'église qui était employé pour désigner la réunion de ces chrétiens, et leur réunion qui n'était pas autre chose qu'une réunion de prière. Les chrétiens ne sont jamais réunis pour faire des débats philosophiques, d'idées, ils se réunissaient pour prier, et ils se réunissaient pour prier, en fait, sur le modèle du culte synagogal. Alors, donc, en fait, ce qui est assez important, c'est que, au départ, la ressemblance entre ces églises et les synagogues est une ressemblance très 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 forte. Vous voyez, les premiers chrétiens se comportaient exactement comme des membres d'une synagogue, fonctionnaient de la même façon. Je trouve que ça ressemble un petit peu, je vais peut-être dire une bêtise, mais bon, je compte sur l'indulgence de nos auditeurs, je trouve que ça ressemble un peu quand même à certaines assemblées protestantes. La façon dont on décrit les réunions de chrétiens issus de la synagogue, avec des lectures, des homélies, des prières, des prières improvisées, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit dans les différentes formes de protestantisme. Je pense qu'effectivement, les protestants, quand ils ont fait leur réforme, d'une manière ou d'une autre, ils ont dû vouloir se rapprocher principalement des premières formes du christianisme. Enfin, ils n'ont pas tout intégré à ce moment-là, et particulièrement ce que je vais dire maintenant. C'est-à-dire que la ressemblance entre les églises et les synagogues tient à l'organisation et au culte. C'était à l'organisation, c'est-à-dire qu'on a retrouvé dans les premières communautés chrétiennes à peu près les mêmes ministères que dans la synagogue elle-même. Au fond, les chrétiens, ils ont calqué leur fonctionnement sur le fonctionnement de la synagogue, et ils ont calqué également leur culte. C'est pour ça que le père Duchesne dit que la liturgie chrétienne procède pour une large part de la liturgie juive, et n'en est même que la continuation. Et moi, j'aime beaucoup ce terme de continuation, parce que je tiens beaucoup à l'idée d'une unité, au fond, entre l'Israël ancien et l'Israël baptisé, si vous voulez. Je tiens beaucoup, beaucoup à ça. Je suis très... prévenu contre l'idée de substitution qui a causé beaucoup de dégâts. Je suis plus personnellement pour souligner l'unité, la continuité, quitte à voir cette continuité comme une expansion dans le temps, un développement vers la plénitude. Mais donc l'idée de continuation, vous voyez, elle est employée par ce bon père Duchesne et je la trouve très, très bonne. Mais toutefois, on distingue on va distinguer ce culte des chrétiens et ce culte des synagogues, mais sur la base d'une autre distinction que j'ai notée aussi, que j'allais oublier, c'est la distinction entre le culte qui avait lieu dans le temple, jusqu'à ce que le temple soit détruit dans l'année 70, si je me trompe. Enfin, il a été détruit plusieurs fois, le pauvre temple était construit, détruit, mais finalement détruit, bon. Le culte utilisé dans le temple n'a pas eu d'influence sur la liturgie chrétienne. Alors ça, c'est vraiment très important. Pour moi, c'était un peu une surprise quand j'ai étudié ça. C'est-à-dire que le culte chrétien, la liturgie chrétienne, procède exclusivement du culte synagogal. Elle ne doit rien au culte du temple de Jérusalem. Le Seigneur Duchesne dit « Le premier n'a exercé aucune influence sur la liturgie chrétienne. » Ce qui ne veut pas dire que les premiers chrétiens ne participaient pas au culte du temple. Ils y allaient. Mais Mais ça n'a pas eu d'influence chez eux. Donc, ce qu'ils ont pris, c'est essentiellement la réunion hebdomadaire de la synagogue. Pourquoi est-ce que la synagogue se réunissait? Essentiellement pour célébrer le Shabbat. Donc, ça, c'est. Alors, ça, je vais revenir un petit peu tout à l'heure si je peux. Alors, c'était effectivement, cette réunion hebdomadaire de la synagogue, c'était le samedi. Toujours, mais ça, c'était, ces réunions avaient lieu à la synagogue ou dans les familles, parce que, en parallèle avec le culte synagogal, il faut absolument parler du culte domestique, qui est très 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 développé dans la communauté juive, et pas seulement à cause de la destruction du temple. Moi, je pensais qu'en fait, c'était à cause de la destruction du temple qu'on avait vu fleurir et fructifier la liturgie synagogale et la liturgie domestique. En fait, non. Ça existait déjà, ça existait déjà. D'abord parce que avant tout le monde n'habitait pas Jérusalem. Donc la plupart des Juifs qui habitaient très loin de Jérusalem, ils venaient à Jérusalem, comme on voit dans l'Évangile, mais ils venaient pas chaque année. On voit même dans l'Évangile que quelqu'un allait à Jérusalem au temple, c'était tout un événement, il fallait faire ses bagages, il fallait, comme nous aussi, quand on part en vacances pour placer le chien, etc. Voir que les voisins viennent garder la maison, enfin, c'est toute une histoire, parce que aller à Jérusalem, c'était vraiment un événement. Ça coûtait cher aussi, c'est fatigant, il fallait se loger chez des amis, chez des proches, comme on le voit dans les voyages faits à Jérusalem par la Mère de Dieu et le Christ et Saint Joseph. On voit bien que c'est une expédition. Et puis quand ils repartent, ils perdent leur gamin, ils ne savent pas où il est. C'est vraiment toute une histoire. Donc la plupart des Juifs, ils célébraient là où ils étaient, à Capharnaüm, dans toutes ces bourgades qui sont décrites par l'Évangile, ou en état de dispersion, dans des villes encore plus éloignées. Vous pensez bien que les Juifs qui vivaient à Alexandrie, ils n'allaient pas au temple très très souvent. C'est pour ça que l'événement de la Pentecôte est très intéressant. L'événement de la Pentecôte, on voit justement ce qui se passait, c'est-à-dire le pèlerinage à Jérusalem, c'était un événement extraordinaire pour les Juifs de la dispersion. Ils arrivaient peut-être, pas très souvent dans leur vie, mais c'est quand même toute une expédition. Et c'est le jour de la Pentecôte, tous ces Juifs étant venus de partout pour la grande fête juive, ils sont venus à Jérusalem, et c'est là qu'il y a eu cette descente du Saint-Esprit. Donc ça pour dire que la relation entre le temple et la synagogue n'est pas du tout... Elle n'est pas interprétée par la disparition du temple, elle est interprétée par le caractère unique du temple, qui se trouve qu'à Jérusalem, il est interprété par la distance, et il est interprété par l'éloignement, et puis le fait que le culte synagogal a toujours existé d'une manière, sans pas une concurrence, mais c'est autre chose. Dans le temple, on offrait des sacrifices. Le culte synagogal, on n'offrait pas de sacrifices. On lit la parole, on la commente, on dit des hymnes, des chants, des prières, etc. Non, il n'y a pas de sacrifice. Le culte synagogal n'est pas... C'est intéressant, c'est-à-dire le culte synagogal n'est pas sacrificiel. Enfin, il l'est, si vous voulez, parce que quand tu lis la Torah, c'est quand même une oblation de... Mais il n'est pas sacrificiel au sens où on n'y fait pas d'offrande ni animale ni végétale. Les offrandes d'Abel et de Caïn, dont je parlais tout à l'heure, elles n'existent que dans le temple. Vous voyez ? Le culte synagogal, c'est l'offrande, si vous voulez, mais de la parole. Alors, de ce point de vue-là, ça nous intéresse beaucoup, nous les chrétiens, évidemment. Donc, c'était le samedi, etc. Alors, ce que j'ai dit, là, à l'instant, oui, donc, les assemblées des synagogues ne comportaient aucun sacrifice sanglant, aucune oblation, seulement prière en commun, lecture des livres sacrés, l'homélie, ce qu'on appelle le midrash, c'est un mot intéressant, midrash, quelques mots hébreux de temps en temps quand même à retenir. Le midrash, c'est l'homélie, c'est-à-dire l'interprétation des lectures. C'est vraiment très, très, très important. Donc, ces quatre éléments-là, lecture, chant, homélie ou midrash et prière, quatre éléments qui étaient présents dans le culte, dans les réunions synagogales, ça a été adopté par les églises chrétiennes. On le retrouve strictement intégré. Et de mon point de vue, c'est ce qu'on appelle, nous, maintenant, les orthodoxes, la liturgie des catéchumènes. Vous savez que nous avons deux liturgies, au fond, même trois, parce qu'il y a des gens qui disent, mais non, la liturgie commence à la post-comédie, c'est ce qu'on veut. Mais, en tout cas, il y a deux parties dans la liturgie elle-même, et la liturgie des catéchumènes, ça correspond, en fait, au culte synagogal, avec en plus, de ce que je viens de dire, les quatre éléments, l'évangile. Donc, c'est le culte synagogal plus la lecture de l'évangile, qui constitue le culte chrétien, au moins dans sa première partie, c'est-à-dire la liturgie des catéchumènes. Bon, alors donc, on peut dire que l'Église chrétienne première a accepté en bloc le culte synagogal. Ça, sans même, sans problème. La question s'est pas posée, si vous voulez, parce que pour des juifs, ben, il fonctionnait comme ça, c'était très bien. Mais alors, il y a des éléments originaux qui sont de deux sortes, alors que Mgr Duchesne met en avant. Moi, je pensais qu'il y avait qu'un élément original qui est la scène, l'Eucharistie, la célébration, le repas, etc., la Sainte Cène. Et lui dit qu'il y a deux éléments originaux. Je laisse la responsabilité de son affirmation, mais c'est quand même intéressant. La Sainte Cène, dont on va revenir, est ce qu'il appelle, lui, des exercices spirituels, ou des manifestations spirituelles. Qu'est-ce que c'est que ces exercices spirituels? Mais c'est le fait que dans les assemblées chrétiennes, alors ça c'est vraiment très, très intéressant, et ça n'existait pas dans les assemblées synagogales, justement, une originalité de l'assemblée chrétienne, c'est que, après la célébration de la Sainte Cène, c'est-à-dire l'offrande du pain et du vin, sur lequel on va revenir, après cela, avait lieu une espèce de happening spirituel, très charismatique, comme on verrait actuellement dans certains mouvements, où des personnes inspirées prenaient la parole. Ce qu'on appelait des prophètes, et donc il est question de ça, vous savez très bien, dans les épîtres de Saint Paul en particulier, qui parle de ça, des membres de la communauté qui manifestaient des dons charismatiques d'interprétation ou de balbutiement de la parole de Dieu. Enfin, donc il y avait tout un espace après la Sainte Cène pour cela. Et ceci n'existait pas dans la synagogue, et ceci a disparu d'ailleurs. Duchesne, il note que ça a disparu au deuxième siècle. Au deuxième siècle, dans les traces qu'on a, le phénomène charismatique, en quelque sorte, j'emploie ce mot-là pour me faire comprendre, le phénomène charismatique a disparu, s'est fondu dans d'autres choses. On n'en a plus les traces qu'on avait à l'époque apostolique. Alors, il faut faire attention. Quand on parle du culte chrétien à l'époque apostolique, après ça à l'époque patristique, c'est pas exactement la même réalité. Donc, vous voyez, c'est assez important, c'est une distinction. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même dans le culte chrétien d'origine une manifestation de la grâce du Saint-Esprit impressionnante. Impressionnante, c'était l'esprit de Pentecôte. Vous voyez, l'église était vraiment le lieu de la Pentecôte continuée. Et ça avait lieu, c'était bien normal que ça avait lieu après la Sainte Cène, puisque l'économie du Verbe a précédé d'une certaine façon quand même l'économie de l'Esprit. Le Christ a institué la Sainte Cène le jeudi saint, comme tout le monde sait, et la Pentecôte est arrivée 50 jours après. Donc dans la structure du culte chrétien premier, non, originel, on retrouve la même chronologie, en quelque sorte, la Sainte Cène d'abord, et les manifestations pneumatologiques, pour ne pas dire pneumatiques, après. Voilà. Alors, en ce qui concerne la Sainte Cène, je ne peux rien vous apprendre, ce sont que des choses que vous savez par cœur, et probablement même mieux que moi, c'est que on a des descriptions. Alors, moi, je suis un ballot, parce que j'ai oublié ma Bible, ça, c'est vraiment un péché. Oui, nous avons des traces, des descriptions du culte chrétien, sous cet aspect-là, sous l'aspect donc de la Sainte Cène, des descriptions de la Sainte Cène qui sont très 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 précises, très assez nombreuses dans le Nouveau Testament, dans ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire les évangiles parallèles. Donc on a par exemple les fameuses paroles du Christ, de l'institution eucharistique, prenez, mangez, etc. Ça c'est bien entendu écrit partout. Et puis le très beau texte de Saint Paul, du saint apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, ça que c'est la peine d'être lu, parce que c'est quand même un beau texte, hein. Chapitre 11. Ben déjà, dans le chapitre 11, il parle du prophétisme, il dit « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef », etc. Donc il faut que l'homme, quand il prophétise, doit être découvert devant Dieu, bon par exemple, mais donc il parle bien d'une activité prophétique, c'est-à-dire, ce que je dis à l'instant, c'est manifestation du Saint-Esprit, en fait. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit d'autre Après ça, il décrit justement le comportement. On avait dans la liturgie chrétienne première un moment d'agape qui précédait, ça peut vous étonner, qui précédait la Sainte Cène. Et ici, il en parle, il dit, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au Seigneur, il le reproche, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Bon, donc on a une description de la première communauté chrétienne, qui n'a pas du tout l'exemple à donner, qui montre qu'en fait, cette réunion des premiers chrétiens, elle était très très communautaire, puis il y avait un petit peu de tout, il fallait de temps en temps, par exemple, plus haut, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, parce que alors le mot assemblée, c'est le mot ecclésia, justement, c'est un mot très très important, j'apprends que lorsque vous, il écrit aux Corinthiens, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Donc là, on a un peu une description. Après ça, n'avez-vous pas des maisons pour manger et boire, ou bien méprisez-vous l'église de Dieu, et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien, que vous dites, etc. Je ne vous félicite pas sur ce point. Bon, alors après ça, voilà, l'apôtre Paul, c'est à partir du verset 23, il dit ce qu'il a reçu, c'est pour faire la leçon à ces chrétiens de Corinthe, qui n'ont pas l'air d'avoir bien compris, en fait, l'importance de la chose. Alors voilà, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain, après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en me souvenir de moi. De même, après le repas, hein, donc c'est bien, la gape bien située avant, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Après ça, la suite, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que Saint Paul, dans sa description de la célébration liturgique, au fond, il met l'accent aussi sur les dispositions intérieures. Ça, c'est très, très, c'est très fort. Ça veut dire que les chrétiens, enfin les apôtres en tout cas, avaient ce sentiment très fort qu'il y a une exigence intérieure pour célébrer, que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi, il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Etc. Bon. Après ça, bon, la suite est décrite. Tout le chapitre 11, vous pouvez le relire. C'est une description, en fait, de la façon dont les communautés chrétiennes fonctionnaient, en tout cas à Corinthe. Voilà. Donc on a tout ça. C'est une des sources importante, qui nous indique la présence d'une action de grâce, ou la prière eucharistique, je vais y revenir tout à l'heure avec d'autres sources qui nuancent un petit peu ça d'ailleurs, mais enfin, il semble que la dimension d'action de grâce et de remerciement, comme le dit l'apôtre Paul dans le texte que je viens de lire, était une dimension première, principale, et ça vient du judaïsme. Le judaïsme, je vais le dire tout à l'heure, est essentiellement axé sur ce qu'on appelle la beraka, c'est-à-dire la bénédiction. La bénédiction adressée à Dieu pour tous ses bienfaits. Alors, donc ce qu'on retrouve, action de grâce aux prières eucharistiques, fraction du pain, distribution du pain et du vin aux convives, ça c'est la partie entièrement chrétienne et originale. Mais justement, en parlant, je ne vous apprends rien non plus, hein, mais c'est pour situer un petit peu les choses. Alors, ça, c'est décrit aussi dans les textes anciens, les textes qui sont à peu près d'origine apostolique, hein, chez Saint Justin, qu'on appelle Saint Justin le philosophe, qui est une grande personnalité spirituelle de l'Église ancienne, et dans sa première apologie, au chapitre 6, il décrit le culte chrétien. Mais non, j'ai dû me tromper, c'est pas cette référence, moi j'avais une autre référence. Non, au début de son apologie, il prend la défense des chrétiens qui sont arrêtés, qui sont malmenés, et il répond en disant, mais on ne fait rien de mal, et voilà ce qu'on fait. Et il décrit, chapitre 16, il décrit en fait le baptême et l'Eucharistie. C'est pas chapitre 6, ce que j'ai dit, c'est chapitre 61. Alors, il parle de la façon dont on prépare les baptisés, par exemple. Bon, ceux qui croient à la vérité de nos enseignements et de notre doctrine promettent d'abord de vivre selon cette doctrine. Bon, je sais pas si c'est exactement dans mon sujet. Il décrit comment on prépare les baptisés. C'est intéressant l'importance du jeûne. Alors nous leur apprenons à prier et à demander à Dieu dans le jeûne la rémission de leurs péchés. Et nous-mêmes, nous prions et nous jeûnons avec eux. Ensuite, ils sont conduits par nous au lieu où est l'eau. Et là, de la même manière que nous avons été régénérés nous-mêmes, ils sont régénérés à leur tour. Au nom de Dieu le Père et le Maître de toutes choses, de Jésus-Christ, notre Sauveur et du Saint-Esprit, ils sont alors lavés dans l'eau. Bon, etc. J'avance, tout ça se réalise, c'est très intéressant. Hein. Et alors, quant à nous, c'est là où on saute au chapitre 65 de la première apologie. Quant à nous, nous c'est, je pense, les ministres, ça peut être des diacres, ça peut être des prêtres, évêques, on ne sait pas vraiment comment appeler ce monde-là, mais pas donc ceux qui s'occupent des autres, en tout cas. Quant à nous, après avoir lavé, un baptême, c'est pour désigner le baptême, hein, celui qui croit et s'est adjoint à nous, nous le conduisons dans le lieu où sont assemblés ceux que nous appelons frères. Voilà, assemblés, oui, cinq, oui, il y a pas, non, je pensais qu'il y avait le mot ecclésia, mais non, il n'y a pas le... Non. Bon, nous faisons avec ferveur des prières communes pour nous, pour l'illuminer, pour tous les autres, en quelque lieu qu'il soit, afin d'obtenir avec la connaissance de la vérité la grâce de pratiquer la vertu, de garder les commandements et de mériter ainsi le salut éternel. Donc il ne cite pas les prières, mais il en donne à peu près le contenu. Qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Vous voyez, la grâce de pratiquer la vertu, de garder les commandements et de mériter ainsi le salut éternel. Quand les prières sont terminées, nous donnons le baiser de paix. Ça, on a une indication rituelle quand même. Ensuite, on apporte à celui qui préside. Alors ça pourrait dire, qu'est-ce que ça veut dire, celui qui préside, bon, c'est l'ancêtre quand même de notre évêque et des prêtres qu'il délègue. Ensuite, on apporte à celui qui préside l'assemblée des frères, je regarde en pépite, « Prasferetetron to proestoti ton adelphon, artos ke potirion idatos » Voilà, c'est traduit très librement, parce que j'espérais trouver dans l'expression « l'assemblée des frères » en me retournant vers le grec, le mot ecclésia, mais en fait, non, le traducteur a traduit comme ça de manière assez libre. En fait, dans le texte grec, c'est simplement les frères. Ensuite, on apporte à celui qui préside les frères, toproestoti ton adelphon, on lui apporte artos le pain, kepotirion idatos, un vase d'eau, kekramatos et du vin. Donc, ça, c'est très intéressant du point de vue du rituel, le fait que la coupe soit un mélange de vin et d'eau, donc c'est très très ancien, vous voyez, ça se trouve déjà ici. Alors, donc quand les prières sont terminées, on apporte à celui qui préside l'assemblée des frères du pain et une coupe d'eau et de vin trempé, il les prend, ça désigne la procession, c'est la procession de la grande entrée, c'est à peu près, vous voyez. Il les prend et loue et glorifie le Père de l'univers par le nom du Fils et du Saint-Esprit, puis il fait une longue eucharistie, alors vous voyez que les prières étaient déjà longues à l'époque, genre la liturgie de Saint-Basile qu'on a en ce moment, qui est restian hyper tu catixios, c'est tout un paraftu, et puis pour les piités, il dit, bon, le texte grec dit pas que c'est une longue eucharistie, enfin bon, donc eucharistie pour tous les biens que nous avons reçus de lui. Et donc vous voyez ici que eucharistie veut dire remerciement, donc ça veut dire que la prière chrétienne ici est quand même très nettement une prière d'action de grâce, comme enfin, sur le modèle de la prière juive, que Dieu, je vais arriver à ça, j'ai trouvé dans des textes sur la liturgie juive, justement, la définition de la prière juive, principalement comme bénédiction et remerciement. Donc une longue eucharistie pour tous les biens que nous avons reçus de lui. Voilà. Quand il a terminé les prières et l'eucharistie, « Sin telesandos tasachas, ketin eucharistiam » ayant terminé les prières et l'Eucharistie, donc c'est intéressant parce qu'il y a deux mots, les prières sont un sens plus général, et l'Eucharistie c'est vraiment la prière comme telle de remerciement. Tout le peuple présent pousse l'exclamation « Amen ». Bravo. Bravo, bravo, ça veut dire que le « Amen » est vraiment une caractéristique du ministère du peuple. Ceci est repris par Nicolas Afanassiev dans son livre « L'Église du Saint-Esprit », il dit que l'Amen, c'est ça qui exprime le ministère du peuple. C'est-à-dire que si le Amen ratifie ce qui est proposé par le proestos, c'est-à-dire le président de la célébration. Donc il y a un qui, pour tous, dit les prières et l'Eucharistie, et après ça, tous participe, il y a une synergie dans la liturgie quand même, hein, pousse l'exclamation « Amen ». Et Saint-Justin commente « Amen » est un mot hébreu qui signifie « ainsi soit-il ». To de amin, ti evraï diéphoni, to renito semini. Ah oui, to renito, c'est-à-dire que, oui, c'est vrai, qu'il en soit ainsi, en grec, c'est ça. Genito, c'est-à-dire que, bah oui, que, qu'il en soit ainsi, oui, donc ainsi soit-il, effectivement. Pas trop autour du pot, tout le temps. Lorsque celui qui préside a fait l'Eucharistie, Eucharistie sandos de tu proestotos, et que tout le peuple a répondu, c'est important, très important, que ef fi mi sandos pandos tu laou, que tout le peuple, pandos tu laou, tout le peuple a répondu, vous voyez, il faut qu'il y ait eu ça, les ministres, alors, ikaloumeni, ikaloumeni parémin diakoni, c'est-à-dire que les ministres qu'on appelle diacres, donc il y avait des diaconats déjà, distribuent à tous les assistants, le pain, le vin et l'eau consacrée. C'est vin et eau consacrée, et S au pluriel. Et ils en portent aux absents. Donc ça, c'est assez important. Vous voyez, c'est que là, on a à peu près la description très 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 rapide, hein, très simple, de l'Eucharistie et son prolongement dans la communauté des baptisés qui, pour une raison louable, sont absents, les malades, etc. Et sont très très vite dans l'histoire chrétienne, les prisonniers. Hein, vous savez que les chrétiens avaient le courage, ceux qui étaient libres, qui étaient à l'époque des persécutions, ont le courage d'aller dans les prisons pour apporter justement le corps et le sang du Christ à ceux qui étaient retenus et tourmentés. Hein, bon. Voilà, donc vous savez, ça vous donne un peu un paysage, regarde l'heure. Alors après ça, donc ça, c'est, vous voyez, le père Duchesne, il donne beaucoup d'éléments qui sont très généraux. Bon, pardon, c'est vrai que c'est pas très, très nouveau, tout ça, mais je trouve que c'est intéressant de voir comment, vous voyez, tout est sorti du judaïsme synagogal, et puis, bon, ben, ça fonctionne de manière autonome, mais sans perdre les racines. Alors, si je prends un autre écrivain, alors plus récent, je ne parle pas dans mes livres, c'est le père Louis Bouillet, qui est un très bon théologien de la liturgie catholique, un oratorien vraiment éminent, connaissant très, très très bien l'orthodoxie. D'ailleurs, le père Louis Bouillet était très, très en relation avec sa génération, avec des gens de l'Institut Saint-Serge, avec Vladimir Lossky, je pense, avec donc c'est des personnes qui cherchait vraiment à retrouver la tradition de Saint-Père au maximum. Et donc, il a un chapitre intéressant dans un livre qui s'appelle « La vie de la liturgie ». Un chapitre intéressant, c'est le chapitre 9, qui s'appelle « La célébration eucharistique du judaïsme au christianisme ». Voilà. Et il dit, je vais aller rapidement... Oui, il dit que la prière, je synthétise, hein, il dit que la prière juive dans la Bible, chez les prophètes et dans les livres historiques, par exemple dans les livres d'Esdras ou le livre de Néhémie, c'est beaucoup, principalement, une prière de louange. Une prière de louange, et c'est aussi une prière de supplication, parce que la prière d'Esdras dans le livre qui porte son nom, c'est une prière dans laquelle il demande le pardon, mais tout en demandant le pardon, si vous voulez, il exprime l'action de grâce et toute l'histoire de la rédemption d'Israël. C'est ça qu'au fond qu'on fait dans une prière juive, elle fait toujours ça. Elle ramasse, elle synthétise tout ce que Dieu a fait pour son peuple. Et le peuple juif est un peuple qui fait mémoire tout le temps de ce que Dieu a fait pour lui. Et ce qui lui est arrivé à lui aussi, c'est un peuple qui est, spécialisé, pas seulement dans l'invocation du nom de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui était spécialisé dans l'exercice de la mémoire des actions divines exemplaires. Alors, donc, le père Bouillet dit que ces caractéristiques de la prière qu'on voit justement dans les livres bibliques, chez Esdras et dans Néhémie, parce que je cite ces deux livres-là principalement, ils disent que ça demeure comme un trait remarquable du culte des synagogues, et ça prépare directement le culte des chrétiens. Distinguons-les donc avec plus de précision et voyons comment ils apparaissent dans la liturgie juive. Tout d'abord, l'action de grâce n'est pas prononcée par n'importe qui, mais par le chef du peuple et par ses représentants désignés par Dieu. Donc il y a un président de la célébration. Secondement, l'action de grâce se présente comme le point culminant de tout le service, après que la parole de Dieu, c'est-à-dire la Torah, a été entendue, au moment où, dans des temps plus anciens, le sacrifice de l'Alliance devait être offert, et l'action de grâce fait explicitement référence à ces sacrifices. Donc, vous voyez, le fait qu'il y ait une action de grâce, donc ça a une place après la parole, et c'est ce qu'on a, nous, dans le culte chrétien, quand on a la liturgie, qu'on appelle la liturgie de la parole, et après ça, la liturgie des fidèles, mais c'est là qu'a lieu effectivement l'action de grâce, ce qu'on appelle l'anaphore. Donc, c'est bien la même structure. D'accord? Quand j'oublie. Et l'action de grâce se présente comme le point culminant, ben oui, ce que nous appelons nous l'anaphore, que ce soit de Saint Jean Chrysostome, de Saint Basile ou d'un autre père ancien, c'est effectivement le point culminant. J'ai envie de dire quand même que le point culminant, c'est la communion eucharistique. Enfin bon, on va laisser M. Bouillet parler pour le moment, on verra après. Troisièmement, quant au contenu et à la forme de la prière eucharistique, de l'action de grâce elle-même, nous pouvons y observer trois traits principaux. La manière dont elle embrasse d'une seule vue tout ce que Dieu a fait au cours de l'histoire pour son peuple, comme un acte unique, seul Dieu, et en particulier la manière dont cette prière unit la commémoration de la création avec celle de l'intervention rédemptrice par laquelle Israël avait été tiré d'Égypte. Donc c'est très important, c'est qu'il faut toute prière de remerciement dans le contexte juif associe création et rédemption, création et salut. Donc non seulement Dieu a créé, mais il sauve son peuple en le faisant traverser la mer Rouge, par exemple. Ensuite, deuxièmement, un autre élément, la très vigoureuse expression du fait que le peuple, reconnaissant par sa louange que tout ce qu'il a et tout ce qu'il est vient de Dieu, non seulement doit remercier pour tous ses dons d'une façon plus ou moins solennelle, mais aussi, par son action de grâce elle-même, doit consacrer toute sa vie et tout son être à son Créateur et Rédempteur. Donc, c'est ce deuxième point extrêmement important. Oui, donc c'est pas seulement remercier Dieu, mais c'est se consacrer à Dieu. La louange et la bénédiction est un acte d'auto-consécration, si vous voulez. C'est très 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 important. Et troisièmement, la façon dont cette prière se termine en demandant à lui-même d'achever ce qu'il a commencé, c'est-à-dire en termes clairs d'accomplir cette nouvelle intervention dans l'histoire, qui sera la nouvelle alliance promise par Jérémie et Ézéchiel, dans laquelle la loi de Dieu sera écrite dans le cœur même de son peuple. Donc avec toute prière, vous voyez quand même, la fois elle comporte plusieurs parties. On remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait, on est conscient que tout ce qu'on a et tout ce qu'on est, ça vient de lui. Deuxièmement, on se consacre à lui dans ce remerciement. Et troisièmement, on attend de lui qu'il accomplisse ses promesses, c'est-à-dire en fait, c'est la vision eschatologique, messianique ou eschatologique de la prière. Alors, donc après ça, il dit quelque chose qui est très intéressant. Et lui aussi, comme Mgr Duchesne, il dit bien, bon ben ça, ce qu'on trouve dans le culte chrétien, ça vient du judaïsme synagogal. Bon, c'est assez clair. Il y a rien de nouveau. Mais alors, ce qu'il dit, c'est que finalement, oui, ce n'est pas seulement dans le culte de la synagogue que nous trouvons l'action de grâce. La prière eucharistique la plus typique et la plus complète du judaïsme est plutôt dans la liturgie des repas. Alors ça, c'est un élément nouveau dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent. Qu'est-ce que c'est que ces repas? Mais il s'agit des repas pris à la maison, donc du culte domestique. C'est pour ça que tout à l'heure, même dans la description que fait l'apôtre Paul, il décrit justement des repas pris par les chrétiens dans telle ou telle maison où se réunissait l'Ecclésia, et il leur reproche, gentiment mais fermement, que ces repas ne sont pas très sérieux, etc. Donc il y a bien le contexte du repas qu'on a ici, et le père Bouillet donc insiste beaucoup là-dessus. Et il dit que ce qui est important, c'est ça, c'est la relation entre les rites juifs, spécialement la liturgie des repas juifs, puis spécialement celle de la Pâque, c'est le repas par excellence, et les repas qui caractérisent le christianisme, et dans l'ensemble d'ailleurs, il se réfère ici aussi au culte païen qui comportait des repas, en particulier les cultes agraires, les cultes par exemple qui faisaient entrer en jeu une déesse comme Déméter. Bon, c'était des cultes qui aussi avaient qui se terminaient par un repas également. Alors ensuite, Ce qui l'intéresse, lui, c'est le rapport entre la liturgie chrétienne et la liturgie des repas juifs, à la maison, dans le culte domestique. Par conséquent, vous savez que ces repas étaient, vous savez, on sait, je pense quand même, ces repas étaient présidés par le chef de famille, sur un caractère extrêmement patriarcal, dans le contexte sémitique. En tout cas, c'est par la liturgie de ce repas sacré, dit Père Bouillet, telle qu'elle était accomplie soit dans les familles pieuses ou dans les fraternités de fidèles en l'attente eschatologique, où l'attente eschatologique était le plus fervente. Ça, c'est intéressant, c'est une question que je connais mal, mais il y avait des fraternités dans le monde juif, surtout de la diaspora, il se faisait des fraternités, c'est-à-dire que les gens se réunissaient pour la prière dans le cadre synagogal ou à la maison. Donc c'est dans ce cadre des repas sacrés que nous sommes maintenant à même de découvrir comment l'Eucharistie chrétienne a germé de l'Eucharistie juive. Oui, c'est intéressant, c'est une belle expression, comment l'Eucharistie chrétienne a germé de l'Eucharistie juive. Alors je lui la suis, parce que je ne serais pas mieux que lui. Avant le commencement du repas proprement dit, il y avait toutes sortes de hors-d'œuvre que chacun des particuliers prenait en arrivant, seul ou avec un ou deux amis. Donc en fait, on mange dès qu'on arrive. Mais même à ce moment, on ne mangeait rien sans une bénédiction. C'est comme nous, les orthodoxes, on ne prend pas une olive sans faire le signe de la croix. C'est resté chez nous. Les orthodoxes, nous sommes très très proches en fait du judaïsme dans sa mentalité, dans son esprit, en particulier ça. Je me rappelle très bien au monastère Saint-Sabas, il y avait un père, un héroman qui s'appelle le père Séraphin, qui est décédé maintenant. Et le père Séraphin, il n'aurait pas bu un verre d'eau sans faire le signe de la croix, vous voyez. Donc ça, c'est très, très typique de la mentalité biblique, ça. Donc, avant le commencement du repas, chacun arrive, mange un petit quelque chose, mais ne mange rien sans une bénédiction, donnée sous cette forme eucharistique si typique de toutes les bénédictions juives. Ceci est particulièrement vrai au sujet des coupes de vin qui circulaient déjà à la ronde et pour lesquelles la bénédiction était, citation, « Béni sois-tu, ô Seigneur notre Dieu, roi de toute éternité, qui a créé le fruit de la vigne. » Bon, c'est vrai que c'est pas une bénédiction extraordinaire, c'est un procès du bon sens, mais le juif basique, si vous voulez, n'aurait pas pris une coupe de vin sans avoir dit ça. Cette première coupe, entre guillemets, qui est citée dans Saint Luc, chapitre 22, verset 17, première coupe de vin, qui est mentionnée seulement dans la narration de Saint Luc, et qui paraît si embarrassante aux exégètes ignorants de la liturgie juive, était évidemment l'une de celles-ci. Quand Saint-Luc parle d'une première coupe, on ne voit pas de quoi il parle. Ben, si, on parle de ça. En fait, j'ai l'impression que les gens n'arrêtaient pas de boire et de manger, en fait. Bon, et les paroles de Jésus dans ce passage, c'est intéressant, ça, oui, sont une allusion évidente à la bénédiction qui vient d'être mentionnée. Quelles sont les paroles de Jésus? Il dit, citation, c'est dans Luc 22, 18, toujours, « Car je vous dis que je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. » Donc quand le Christ parle à ce moment-là, d'après ce que dit le Père Bouillet, il désigne ces coupes qu'on prend en arrivant, mais il ne parle pas, ce n'est pas la même chose que l'offrande qu'il va faire le jeudi saint. Vous voyez, on distingue bien. Puis, donc ça nous est arrivé, on est parti hors d'œuvre, quelque sorte. Puis, lorsque les convives s'étaient lavés les mains, alors c'est extrêmement important, laver les mains avec de l'eau parfumée est extrêmement important. Le lavement des mains fait partie de la dimension sacrificielle et sacerdotale, c'est indispensable. Le repas de communauté commençait. Donc c'est le lavement des mains qui marque l'entrée dans un registre plus intense, disons, de la prière. On comprenait si profondément que tout ce qui devait se faire après ce moment était une action de la communauté tout entière, on ne pouvait admettre aucun nouvel invité après le premier rite. Les portes étaient fermées, mais c'est ce qu'on a dans la liturgie. On dit les portes, soyons attentifs, et on lit ou on chante le credo. En principe, on ferme les portes. Les portes, quelles portes? Soit les portes de l'église, extérieures, soit les portes du narthex qui sépare la nef, qui sépare la nef du narthex lui-même. Mais on ferme les portes. Ben oui. Parce que ça, on pourrait bien l'instituer chez nous. Il y a bien des gens qui ne pourraient pas entrer dans l'église après 11h30 quand la liturgie est commencée. Voilà. Et ce repas donc, qui commence ici consiste dans la solennelle fraction du pain. Oui, non, ça c'est vraiment important, on est absolument, vous voyez, dans la relation avec l'Eucharistie chrétienne. Celui-ci, c'est le premier rite après le lavement des mains, hein, et après qu'on ferme les portes et que plus personne n'entre, d'accord? Celui-ci consistait dans la solennelle fraction du pain par le chef de la famille ou le président de la communauté, on est toujours dans le monde juif, là, ça va être calqué par les chrétiens après, qu'il accompagnait de ses bénédictions, citation, « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de toute éternité, qui a fait produire le pain à la terre. » C'est des bénédictions très belles, très simples, vous voyez. C'est à ce moment que notre Seigneur, avant de distribuer le pain à tous les membres de la communauté, conformément au rite familier, c'est-à-dire de la famille aussi, hein, doit avoir ajouté « Ceci est mon corps, donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Donc vous voyez, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire, vous voyez, on voit tout ce qui vient du judaïsme, et, ben, c'est tout pratiquement. Et puis, hop, à un moment, une phrase qui fait que ben, cette liturgie familiale, domestique, synagogale, bon, brusquement, bah, ça devient tout à fait ça prend tout à fait une autre dimension. Voilà. Alors ça, oui, c'est vraiment intéressant. Donc c'est toujours dans l'idée dans le Père Bouillé. Et puis il me reste, j'ai encore du temps. Ça ira peut-être un peu plus rapidement sur cette histoire de bénédiction. Des théologiens de la liturgie, toujours des bons dominicains, des bons oratoriens, des bons... Vous savez, il y a toute une génération de prêtres, de théologiens dans l'Église catholique qui a travaillé sur la liturgie, qui a produit cette collection, justement la collection Lex Orandi. Ça s'appelle Lex Orandi. C'était publié par l'édition du CERF. Il y a toute une collection qui a existé, qui est faite que par les spécialistes de la liturgie. C'est extraordinaire ce que ces personnes ont fait. Il faudrait, j'espère avoir la possibilité de faire une séance sur le mouvement liturgique. Et parler des gens quand même, effectivement, le père Bouillé, le père Cazel, le père Bott, le père Ruby, dont je vais dire, mais également le cardinal Danielou, qui a beaucoup, beaucoup fait pour la compréhension du sémitisme profond du culte chrétien, Bernard Bott, j'ai dit, oui, je n'ai pas tous les noms en tête, mais il y a vraiment une génération qui s'est intéressée, les jésuites également aussi, qui ont sorti la collection des sources chrétiennes, c'est quand même grâce à nos amis jésuites que nous avons, nous les orthodoxes, les textes des pères de l'Église dans la collection des sources chrétiennes. Donc c'est vraiment une génération tout à fait extraordinaire. Et donc, parmi eux, là j'ai deux textes, un texte du père Henri Cazel, des semaines liturgiques de l'Institut Saint-Serge. Donc vous voyez, c'est assez intéressant, cette coopération pour le bien de la liturgie des catholiques les plus exemplaires avec les théologiens orthodoxes. Donc à l'Institut Saint-Serge, il y avait eu une semaine liturgique, qui s'appelait Eucharistie d'Orient et d'Occident, dans laquelle ont participé le père Nicolas Coulomzine, décédé parmi les orthodoxes, qui est père Delmet, décédé parmi les catholiques, père Bobrinskoy, qui vit toujours, monsieur Grabar, c'est des grands théologiens quand même, des grandes personnes, oui. Et donc, il y a ici un article du père Henri Cazel, qui s'appelle l'Anaphore, c'est-à-dire la prière d'action grâce, et l'Ancien Testament. Et c'est lui qui dit, vous voyez, ça recoupe ce que je disais en introduction tout à l'heure, il est intéressant de rechercher si dans le rituel sacrificiel juif, il n'y aurait pas des éléments que la liturgie chrétienne aurait assumés. L'Ancien Testament connaît une économie sacrificielle centrée sur le temple et une théologie de la présence de Dieu qui s'exprime dans la prière des psaumes, la prière deutéronomique de l'habitation du nom de Dieu et la théologie sacerdotale de la gloire divine. Certes, ce rituel sacrificiel a disparu avec le temple, je vous ai dit ça, que le sacrifice a lieu au temple, ça n'a pas lieu à la synagogue, donc il reste, après le temple, il reste le culte synagogal, c'est simple. Le rituel synagogal, donc celui qui demeure après la destruction du temple, quelle que soit sa richesse en prière et en lecture, ne peut avoir d'anaphore, car celle-ci est liée à la consécration et à l'immolation de la victime sacrificielle. Ah oui, il n'y a pas d'offrande dans le culte synagogal. Donc ça peut être qu'un apport chrétien. Ce sont les chrétiens qui ont introduit dans le culte synagogal l'anaphore, c'est-à-dire l'offrande, en s'inspirant quand même des prières de bénédiction. Hein, attention. Alors voilà, donc il dit après l'anaphore, hein, donc ce qu'on appelle l'anaphore, c'est la grande prière d'offrande de Saint Basile ou de Saint Jean Chrysostome. L'anaphore est la prière qui accompagne l'Eucharistie, ou plus exactement, c'est l'Eucharistie qui accompagne la consécration suivant le rituel même de la scène. Donc le développement de l'anaphore, même s'il est parti de la bénédiction juive, c'est autre chose parce que c'est lié justement à une oblation, à une offrande. Alors que la bénédiction, c'est intéressant ça, la bénédiction juive, la beraka dont cet auteur parle après, c'est exclusivement une prière de remerciement. On remercie Dieu pour tous ses bienfaits, comme on l'a dit tout à l'heure, on se consacre à lui et on espère qu'il va faire encore plein de bonnes choses. Bon, l'anaphore est liée à une consécration, c'est-à-dire à une offrande, et ça, ce n'est pas dans la prière synagogale. Vous voyez ? Donc il faut dire, la prière chrétienne, c'est prière de bénédiction synagogale plus prière d'oblation propre. Voilà. C'est pour ça qu'il dit que oui, ça, tout ça tourne autour du terme de Eucharistie en grec, Eucharistia. Et puis un autre, enfin bon, ça devient un peu technique après, un autre mot, le verbe evlogin qui veut dire bénir. Regarde si. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est sa conclusion au bout du compte. Il dit. Ah oui, c'est ça, il arrive à une conclusion très intéressante. Parce qu'en fait, là, pour le moment, on comparait vraiment l'office chrétien avec l'office juif, et je vous disais que l'office juif se caractérise par la bénédiction, l'action de grâce, le remerciement, la louange, etc. Mais avec l'office chrétien, il se caractérise par l'oblation. Alors justement, lui, Père Cazel conclut en disant, en fait, l'Eucharistie chrétienne est moins une action de grâce qu'une proclamation de la victoire du Christ par sa passion et sa résurrection. Les paroles de la consécration appellent d'elles-mêmes cette proclamation dans un contexte qui va devenir une anaphore. Donc c'est, vous voyez, on sort du culte des Juifs, mais il y a des éléments tout à fait nouveaux. Bien sûr, les paroles de l'institution eucharistique, mais le fait que est annoncé. Enfin, c'est très caractéristique dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome ou de Saint Basile, ce qu'on lit après, ceux qui connaissent, qui suivent la liturgie régulièrement et qui l'entendent, là où les endroits où les prières sont pas dites à toute allure et à voix basse, bon, on entend normalement après la communion, ayant contemplé la résurrection du Christ, etc. C'est-à-dire que il est dit, c'est un tropaire de Pâques, d'ailleurs, qui est dit toujours dans la divine liturgie, j'ai pas le texte là, mais que vous devriez entendre, que nous devrions tous entendre, on dit, ayant proclamé la résurrection du Christ, prosternons-nous devant le Saint Seigneur Jésus, etc. Qui est, et donc, ça souligne, après la communion eucharistique, au moment où on met les dons qui restent, qui n'ont pas été consommés, on les met tous dans le calice, pour conclure la liturgie, on souligne le lien entre la célébration eucharistique et le mystère de la résurrection. Donc c'est, oui, c'est un petit peu autre chose quand même que le culte juif. Mais il faut bien, on fait pas de coupure, oui, entre les choses. On dit, mais c'est ça, plus, et on arrive à ce qui est le culte chrétien. Et là, dans le même volume d'Eucharistie d'Orient et d'Occident, publié par le CERF, enfin, j'ai mis la biographie sur le site, vous pouvez la trouver, même volume, il y a, je n'ai pas marqué les pages, mais j'en retrouvais le chapitre du Père Cazel, l'anaphore et l'Ancien Testament, donc qui arrive à cette conclusion très intéressante que l'anaphore chrétienne, enfin l'anaphore, la liturgie chrétienne était essentiellement quand même une proclamation de la résurrection, et puis un deuxième article qui est une conférence qui est d'un théologien qui s'appelle Kurt Ruby, et qui, lui, ça s'appelle l'action de grâce dans la liturgie juive. Alors, c'est assez technique, malheureusement, je ne pense pas pouvoir utiliser tout, mais il centre toute son étude sur le terme de beraka, qui veut dire bénédiction. C'est le mot clé, en fait, du culte juif, du culte synagogal. D'accord ? Et alors, il cite un autre écrivain. Voilà, le type fondamental de la prière est appelé beraka. Le terme comme tel remonte au deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, verset 26. Dans Néhémie, il est employé dans son sens nouveau, technique. Beraka vient de berak, qui signifie primitivement, c'est très beau ça, tomber à genoux. puis prend le sens d'intercéder, bénir, pour aboutir enfin à la signification de louer, glorifier Dieu. Ainsi, Beraka désigne en même temps la prière de louange et l'action de grâce, elle remet toujours un caractère dynamique. La Beraka a toujours une forme déterminée, elle a pour prototype les nombreuses prières de louange dans les psaumes, plus particulièrement les doxologies à la fin des différentes sections du psautier, psaume 41, 14, etc. Des règles fixes pour la formation concrète de la Beraka ont été établies au IIIe siècle. Tantôt on exige comme indispensable la mention du nom de Dieu, tantôt celle de la royauté de Dieu, et donc on a des formes, par exemple, je vous le lis pas en hébreu, « Sois béni, Yahvé, notre Dieu, roi de l'univers ». Voilà une Beraka, c'est-à-dire une prière de bénédiction type qui correspond à ce que j'ai vu tout à l'heure, voyez. Donc en fait, les théologiens de la liturgie sont bien d'accord que la prière juive de bénédiction est la base tout de même du culte chrétien, même si elle s'augmente de d'autres dimensions. Il y a des bénédictions brèves, limitées à une seule phrase, telles que les bénédictions qui accompagnent certaines jouissances et l'accomplissement de devoirs religieux. Et puis il y a des bénédictions longues. Ce sont les prières, dans le sens habituel de ce mot. Bon. Alors, il y a des prières de demande, c'est-à-dire... Mais alors, en fait, ce qui est assez curieux, c'est qu'on ne distingue pas. Moi, personnellement, j'aurais bien distingué, à mon petit niveau, mon petit bon sens, à moi, j'aurais bien distingué quand même prière de louange et prière de supplication. Mais, en fait, le terme de Beraka inclut les deux, puisque vous voyez, on a tomber à genoux, intercéder, louer, glorifier. C'est qu'en fait, dans le même mot qu'on traduirait par bénédiction, qui serait pas une bonne traduction, on inclut deux dimensions de la prière que, personnellement, je trouve assez différentes. Et que dans la liturgie chrétienne, on retrouve de manière très intéressante, puisque, quand même, dans la liturgie chrétienne, la liturgie de Saint-Jean-Chrysostome, par exemple, c'est distinct. Même n'importe quel de nos offices, par exemple, les prières initiales, j'ai toujours ça. Prières initiales, ça commence comment? Tiens, prêtre. Béni est notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Bon, donc c'est une louange. Après ça, on continue avec la louange. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu, gloire à toi. Bon. Après ça, on a la supplication. Roi céleste, consolateur, viens et demeure en nous. Ah, c'est une demande. Après ça, on a, c'est très intéressant, les tressagion. Normalement, après ça, on a la gloire au Père. C'est-à-dire encore une louange. En passant le tressagion, les tressagions sont faits de deux parties, une partie louange et une partie supplication. Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, ça c'est la louange. Et pitié de nous, fais-nous miséricorde, ça c'est la demande. Ah bon, je ne vais pas plus loin, mais c'est pour dire que dans la liturgie chrétienne, tout le temps, on a une combinaison de la louange et de la supplication. La divine liturgie, elle commence par bénir le royaume du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qui est absolument fantastique comme... On peut s'arrêter... Là, il y a tout dans cette Beraka, donc c'est tout à fait une bénédiction juive, ça. Et après ça, qu'est-ce qu'on a? On a, en paix, prions le Seigneur, qui réveille ça, et on a une litanie de demande. Vous voyez? Et si vous avez le temps, vous regarderez comment la liturgie est structurée de cette façon-là, elle est structurée essentiellement par une alternance de supplications et de demandes, qui sont enfermées de louanges, qui sont dans la langue hébraïque, enfermées dans le même mot. Mais c'est intéressant, oui, c'est deux dimensions. Bon, j'avais envie de lire, quand même, il cite quelques textes hébreux, qu'est-ce que je trouve très beaux, est-ce qu'ils sont... Voilà, par exemple, une belle prière de bénédiction, vous allez voir, ça ressemble beaucoup à ce qu'on entend dans la liturgie, quand même, nous te rendons grâce, car tu es notre Dieu et le Dieu de nos pères, le rocher de notre vie, le bouclier de notre salut, tu l'es de génération en génération. Ouais, c'est beau, hein. Prière de bénédiction. Alors ça, c'est une prière de bénédiction particulière, parce que le terme de Beraka, c'est un terme général, et puis il y a un terme plus précis, qui est le terme de Hoda, H-O-D-A-H, et qui précise le sens de rendre grâce. C'est plus dans le contexte général de la Beraka, le Hoda, c'est plus spécialement ça. Alors c'est voilà un exemple de Hoda, ce que je suis en train de vous lire, pour te rendre grâce car tu es notre Dieu, et le Dieu de nos pères, le rocher de notre vie, le bouclier de notre salut, tu l'es de génération en génération. Nous te rendons grâce et proclamons ta gloire pour nos vies qui sont mises dans ta main, pour nos âmes qui te sont confiées, pour tes miracles et tes signes merveilleux, pour le bien que tu nous prodigues en tout temps, le soir, le matin et à midi. Dieu bon, ta miséricorde n'en finit jamais. Dieu plein de pitié, ta grâce ne s'épuise pas. Tous les vivants glorifient ton grand nom, car le Dieu bon est plein de bonté. Sois béni, Seigneur, dont le nom est pour toujours le Dieu bon, et il convient de te rendre grâce. Oui, c'est sensationnel. Ça, c'est des prières juives. Comment ? Oui, oui, mais là, c'est ça, si vous voulez, c'est vraiment une prière composée spécialement, mais qui effectivement est dans le même. Il y avait une autre prière, alors je voulais vous dire ça, parce que c'est assez extraordinaire, où la prière juive remercie Dieu de lui permettre de le remercier. J'espère que je vais retrouver ça, parce que c'est quand même intéressant. Où est-ce que c'est? Oui, oui, alors regardez ça. Un certain rabbin, c'est-à-dire un certain père spirituel juif ou rabbin dit: nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, de ce que nous soyons capables de te rendre grâce. C'est superbe ça. Shemuel dit: Dieu de toute chair, nous te rendons grâce de ce que nous soyons capables de te rendre grâce. Rabbi Simaï dit: notre Créateur qui a accompli l'œuvre de la création, nous te rendons grâce de ce que nous soyons capables de te rendre grâce. C'est fantastique. Un homme de Néardéa dit au nom de Rabbi Simaï: nous offrons bénédiction et louange à ton grand nom, parce que tu nous as fait vivre et nous as maintenus en vie, et que nous sommes capables de te rendre grâce. Quand on lit des choses comme ça, on se rend compte que, vous voyez, on n'est pas dans une situation de supériorité par rapport au judaïsme. Hein. Ça rend modeste, quand même. Le triomphalisme chrétien, de temps en temps, peut se calmer un peu. Et Rab, alors un autre, je ne sais pas le prononcer, termine comme suit: ainsi, conserve-nous en vie, fais-nous grâce, réunis-nous et rassemble les exilés dans tes parvis saints, afin qu'ils puissent garder tes ordonnances et faire la volonté d'un cœur entier. Et nous te rendons grâce de que nous soyons capables de te rendre grâce. Rab Papa dit, puisqu'il en est ainsi, qu'on les dise toutes. C'est-à-dire toutes les formules que le texte vient d'énumérer. Bon, je ne vais pas plus loin là-dessus, mais vous voyez l'intérêt quand même de le sable et la richesse de ces prières de bénédiction, mais... Et vous voyez que c'est une prière de bénédiction, une prière de remerciement, ça correspond au fond à la première partie de notre anaphore. Il y a qu'il n'y a pas d'anaphore dans la culte synagogale, c'est pas tout à fait vrai quand même, puisque nos anaphores, c'est de Saint-Jean-Chrysostome et de Saint-Basile, elles comportent ça. La première partie, on rappelle, on remercie Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous et son salut, et puis après ça, on arrive aux paroles de l'institution, le Christ qui, le soir de sa passion, prie du pain, donc ça, on rattrape l'événement historique de l'institution. Mais toute la première partie d'anaphore est une beraka. Alors, évidemment, je ne comprends pas pourquoi ces auteurs opposent trop. Alors, après ça, j'avais une dernière source intéressante que j'ai citée aussi en bibliographie. C'est l'article de Sandrine Canéry dans un numéro de contact. La référence, vous la trouverez sur le site. C'est le numéro contact, numéro 1, contact octobre-décembre 2006, numéro 216, je crois. Si je ne me suis pas trompé, enfin 2006, je chercherai octobre-décembre 2006. Et donc elle a fait un article qui s'appelle « Les sources juives de la liturgie byzantine ». Et moi j'avais prévu, ça va dans le sens de ce que j'ai déjà exposé là à l'instant, mais alors elle a bien mis en valeur le lien entre le culte synagogal, premier embryon de la liturgie, le lien entre les offices des synagogues et ceux de l'Église, etc. Le fait que la liturgie juive, aujourd'hui encore, est indissociablement la liturgie synagogale et la liturgie familiale, c'est ce qui est resté, mais comme je vous l'ai dit, ça ne remplace pas le culte du temple, ça a toujours été en parallèle au culte du temple. Bon. Et là, après ça, une chose qui est intéressante, c'est qu'elle fait une comparaison entre le culte chrétien pour les offices du cycle quotidien. Vous savez qu'il y a chez les juifs, comme nous le faisons aussi, ou plutôt nous le faisons comme pour les juifs, ça exactement, il y a en fond trois cycles à peu près de prière. Il y a le cycle annuel, il y a le cycle hebdomadaire, voilà, et puis il y a le cycle quotidien. Donc ces trois cycles-là sont, ils nous viennent du judaïsme et ils sont... Voilà, le cycle hebdomadaire, c'est le Shabbat, ça c'est pas compliqué, c'est le samedi qui revient. Hein. Voilà. Donc, c'est, puis en plus, à l'intérieur, donc dans le cycle quotidien, il y a également aussi une articulation. Sandrine Canéry nous dit, indique ça, il y a trois prières, la prière de l'aube, la prière de l'après-midi et la prière du soir. Donc, vous voyez, le cycle, alors ça, c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve dans nos offices des heures de la journée. En principe, il y a, on devrait les répartir, hein, prime, tierce, sexe, donne, j'oublie quelque chose, non? Ça devrait être réparti suivant les heures de la journée, souvent on les regroupe. On regroupe prime avec matine le matin, là ça correspond à la prière du matin, on regroupe au milieu de journée, tierce, sexe et nonne, bon, au milieu de journée, et puis on a l'office de vêpre en fin de journée. Donc on retrouve, si vous voulez, globalement, la prière quotidienne, la prière liturgie quotidienne des chrétiens est la prière quotidienne des juifs. C'est la même structure. Donc elle explique bien ça. Et après ça, elle a de longs passages qui sont assez intéressants sur le rapport entre le Shabbat, ou c'est le samedi, et le dimanche. Elle dit, je gagne un peu du temps, elle dit qu'en fait dans l'église ancienne, l'église des premiers siècles, à l'époque patricique même, les chrétiens avaient un grand respect pour le samedi. On n'a jamais, ni confondu le samedi et le dimanche, ni substitué l'un à l'autre. Il n'a jamais été question que le dimanche devienne un jour qui remplaçait le sabbat juif. Jamais. Donc ça, c'est des préjugés qu'on entend quelque part. On dit, oui, mais la prière, le jour important pour les juifs, c'est le sabbat, pour les chrétiens, c'est le dimanche. Pas du tout. Le dimanche, c'est un jour en plus, qu'on appelle le jour 8. Et ça, c'est très, 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 très important, ça. Et non seulement ces jours en plus, mais par exemple, dans les constitutions apostoliques, les pères chrétiens, s'adressant à l'évêque, disent, dans ton enseignement, constitution apostolique, c'est au chapitre 2, paragraphe 59, dans ton enseignement, ô évêque, recommande au peuple et persuade-le de fréquenter l'église assidûment chaque jour, matin et soir. Surtout le sabbat et le jour de la résurrection du Seigneur le dimanche. Vous voyez, les pères chrétiens, vous voyez, ils estimaient que le sabbat restait un moment important. Surtout le sabbat et le jour de la résurrection du Seigneur le dimanche, mettez encore plus de zèle à vous réunir pour adresser votre louange à Dieu. Voilà. Et puis, il y avait un autre texte, je ne sais pas si je vais le retrouver, un texte de Saint Grégoire de Nice, qui dit, le samedi, c'est extrêmement important, etc. Alors, ça veut dire que l'organisation de la prière chrétienne dans sa forme hebdomadaire, puis je vais m'arrêter là-dessus, dans la structure quotidienne, on retrouve les traces de l'organisation de la prière juive, mais dans la prière hebdomadaire également. Et c'est particulièrement net dans notre Église orthodoxe, où le samedi reste un jour spécial. Je pense que ça, c'est très intéressant. Dans le cycle de suivi par l'Église orthodoxe actuellement, le samedi reste un jour particulier. Et je pense que ça a disparu dans les autres églises chrétiennes. Ça ne me regarde pas, au fond, je n'ai pas vraiment été voir. Mais la distinction entre le samedi et le dimanche reste chez nous. C'est très fort. Par exemple, dans l'Église orthodoxe, le samedi est le jour où l'on prie pour les défunts. C'est le jour du retrait, c'est le jour du retrait de Dieu, c'est le jour du retrait du Dieu incarné aux enfers avant sa résurrection, et c'est le jour aussi du retrait des défunts dans l'attente de la résurrection. Donc la prière spécifique pour les défunts est le samedi. Ça se voit beaucoup en période de carême, où nous avons trois samedis consacrés aux défunts, et où il n'y a pas de prière pour les défunts en semaine, c'est interdit. On ne fait pas de parastase, pour employer l'expression romaine, pendant la semaine en tant que carême. C'est-à-dire qu'en fait, dans le temps de carême, on retrouve la vieille tradition qui est d'honorer le samedi. Et c'est pour ça que le samedi également, on ne fait pas de mariage normalement, et des tas de choses qu'on ne devrait pas faire. Il faut essayer progressivement d'arrêter de célébrer les mariages le samedi, parce que le samedi c'est le Shabbat, et le Shabbat on ne célèbre pas de mariage. Voilà. Bon, et alors, en revanche, le dimanche est effectivement le jour 8, le jour eschatologique, le jour de Léon nouveau, mais qui s'ajoute. Il est le premier jour. Alors, dit ça très bien, Sandrine Canéry dit, ainsi pour les premiers chrétiens, la célébration de la résurrection, entre guillemets, le premier jour de la semaine, est venue s'inscrire tout naturellement dans la perspective du 8e jour, jour de vie éternelle. Et pas du tout pour se substituer au sabbat, pas du tout. Alors ça, vraiment, je suis bien content de pouvoir dire ça clairement. Alors, comment vivaient-ils le septième jour, demande Sandrine, ben, comme les autres juifs de leur temps. Le Shabbat s'achevant avec l'arrivée de la nuit, le dimanche lui succédait immédiatement avant la reprise du travail qui dans l'Antiquité ne se faisait qu'avec le lever du jour. Alors, donc ce jour nouveau, le huitième jour, lié à la résurrection du Christ, n'est pas l'équivalent chrétien du sabbat. On va dire, les musulmans le vendredi, les juifs ont le samedi et les chrétiens ont le dimanche. Idiot de dire ça, excusez-moi. Il n'y a pas eu de substitution pure et simple du sabbat par le premier jour. Il y a eu la nécessité de marquer ce jour nouveau d'une façon différente qui garde un lien substantiel avec le sabbat. Vous voyez? Bon. Enfin, il y aurait bien d'autres textes à citer, là, je vais... Bon, il reste 3 minutes. C'est encore dans les constitutions apostoliques. Hein. Les constitutions apostoliques, c'est un livre très intéressant, parce que ça montre que dans l'époque ancienne de l'Église, le judaïsme était très très présent dans la conscience des pères. Que c'est plus tard, progressivement, on a commencé à se démarquer du judaïsme d'une manière polémique, malheureusement. Mais voilà, c'est une prière qui est dans les constitutions apostoliques. Seigneur Tout-Puissant, mais j'aimerais m'arrêter là-dessus. Seigneur Tout-Puissant, par le Christ, tu as créé le monde. Alors, moi, je crois que c'est une prière chrétienne, parce qu'il y a le Christ. Et pour en faire mémoire, tu as institué le Shabbat. Car tu as établi qu'en ce jour, on se repose dans son travail pour méditer tes lois. Tu ordonnas à nos pères de célébrer le sabbat pour leur faire connaître ta puissance, pour les retenir du mal en les entourant d'une barrière sacrée grâce à l'enseignement pour la réjouissance de la semaine. Pour que les hommes n'aient aucun prétexte d'excuser leur ignorance, dans ce but, tu as ordonné de chômer tous les sabbats, en sorte que personne n'ose seulement proférer une parole de colère le jour du sabbat. Donc le samedi, on ne se met pas en colère. Car le sabbat, c'est le repos après la création, l'achèvement du monde, la méditation des lois, la louange reconnaissante adressée à Dieu pour les dons qu'il fit aux hommes. La louange reconnaissante adressée à Dieu, c'est justement la prière synagogale le samedi. Mais le dimanche surpasse tout cela du fait qu'il célèbre le médiateur, le protecteur, le législateur, le principe de la résurrection. Voilà, donc, bon, merci de votre attention. Je suis content d'avoir quand même pu présenter ce que j'avais préparé. C'était à peu près convaincant, disons, pour montrer tout l'intérêt qu'il y a à voir et à connaître les racines juives de notre vie liturgique. Voilà, Amen.